La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonjour à tous.
Bonsoir.
Ce soir, après avoir longuement disserté la semaine dernière sur les analphabètes en matière de solfège et de théorie musicale, nous allons vous parler de ceux qui savent tout.
C'est-à-dire des virtuoses et même, je dirais, des compétiteurs.
Oui, parce qu'il faut vous dire que le jazz, comme tous les milieux de musiciens, n'échappe pas à la règle de la concurrence, de l'exploit, des défis et même des duels. La compétition entre instrumentistes s'appelle dans le jazz le « cutting » conteste.
C'est ainsi que, au berceau du jazz, donc à la Nouvelle-Orléans, deux orchestres se rencontraient au coin d'une rue, et là, devant des spectateurs qui naturellement accouraient, les orchestres jouaient le mieux possible, quelquefois le plus fort possible. Et c'était les spectateurs qui choisissaient leur camp. Et ben, l'orchestre battu s'enfuyait, la queue un peu basse.
Hein. Piteusement. Et alors, comme ces orchestres étaient souvent juchés sur des camions, sur des plateaux de camions, ils parcouraient la ville pour faire de la pub aux spectacles pour lesquels ils avaient été engagés. Les petits malins qui assistaient à la chose, très souvent, ils enchaînaient un camion à l'autre. C'est-à-dire que le vaincu ne pouvait pas partir. Et là, le vainqueur, généralement le trombone, lui faisait un petit air que je ne vous traduis pas. Il se foutait du chef d'orchestre d'en face avec ses petites sonneries rituelles qui étaient très désagréables quand on avait été battu.
Franchement, c'est assez humiliant, mais quand on prend le risque, il y a un vainqueur et un vaincu.
C'est comme ça. Et tout ça se retrouve plus tard à Harlem, dans des compétitions furieuses entre pianistes, où chacun disait à celui qui est en train de jouer, « Allez, pousse-toi de là, que je prenne ta place. » Et vous allez entendre ça à la fin du disque que nous allons vous passer, de Fats Waller, où Hank Duncan tient le piano, c'était la doublure de Fats, et à un moment donné, vers la fin du disque, il joue et on entend Fats qui lui fait « Allez, maintenant, pousse-toi de là, c'est moi !» Et hop, il enchaîne, et évidemment, il le surclasse. Ça s'appelle « Igotrism » et c'est assez volcanique.
Show him how to swing, Hanky.
Oh, I ain't gonna have that. Well, I got him some. He belongs to me. He's mine. He's mine. There he is. Turn him loose. Ha ha! Well, all right.
Thank you.
Naturellement, très vite, toutes ces compétitions se passent par disques interposés également.
Oui, c'est un moyen d'expression, le disque.
Un virtuose, un jeune virtuose nommé Roy Eldridge, qui va devenir un nom hyper célèbre dans le jazz, se fait sa réputation avec un disque où il exprime toute sa virtuosité, justement, mais alors là, à l'épate, hein, c'est vraiment pour la galerie.
D'ailleurs, c'est un peu le propre des jeunes, parce que quand ils sont vraiment très brillants, ils oublient un peu l'émotion pour surtout faire quelque chose qui étonne les autres. Et l'âge venant, c'est un peu différent.
Oui, l'âge venant, on se rend compte, avec le recul du temps justement, à quel point ce disque-là, qui a eu beaucoup de retentissement, parce que vraiment, il y a de la trompette, il y a de la technique, il y a tout ce qu'il faut, combien ce disque-là peut être surclassé par une autre interprétation que vous allez entendre juste après, dans laquelle l'émotion passe, comme on dit, il se passe quelque chose.
La vraie qualité du musicien virtuose, c'est quand on fait passer la virtuosité au second plan et qu'elle est au service de l'émotion. Et ça, effectivement, c'est ce que vous allez entendre dans Rocking Chair.
Qui est le deuxième morceau, et nous allons le faire précéder du morceau hyper brillant des débuts de Roy Eldridge.
After You've Gone.
En fait, et pour nous résumer, la technique, c'est comme l'arbitre au rugby, quand on le voit pas, c'est qu'il est bon.
We'll be right back.
Et maintenant, un autre virtuose avec un prénom bien prédestiné, Rex, le roi, Rex Stewart. Alors lui, il a une virtuosité réelle, mais il s'en sert plutôt pour s'amuser, pour faire des choses un peu originales. Il n'a aucun problème technique, donc il invente.
Il n'a pas de complexe. J'ai toujours pensé que Roy Eldridge, qu'on a connu, approché, discuté et vu vivre, j'ai toujours pensé qu'il avait un petit complexe. Il était surnommé Little Jazz parce qu'il était tout petit, et il avait un côté « je veux montrer que je suis là » dont il n'arrivait pas à se départir. Et on l'a vu plusieurs fois ça lors de rencontres avec d'autres trompettes dans des studios d'enregistrement. Mais Rex Stewart n'est pas du tout comme ça. La technique de Rex Stewart s'étend jusqu'à quelque chose qui est très rarement utilisé.
Oui, il s'agit des notes pédales. C'est le nom qu'on donne à des notes qui ne sont pas dans la tessiture de l'instrument. Souvent des notes très basses. C'est inattendu.
Ah, ça fait un bon gag.
Oui, presque un gag.
Ah ben là, il s'en sert comme gag, ouais. Vous allez voir. C'était un amuseur terrible, comme on disait tout à l'heure. Vous allez voir, ça s'appelle...
Boy Meets Horn.
I'm with you, Rex.
Horn.
Oh, Rex.
There.
Thank you.
Il n'y a pas dans le jeu de Ray Stewart que la capacité d'attraper les notes pédales qu'on a entendues là à la fin du morceau. Il y a surtout cette technique des notes complètement étranglées là qui donne une sonorité étrange à l'instrument. Et ben ça, je dis ça aux trompettistes qui pourraient se poser des questions en écoutant ce morceau. Ça consiste à abaisser les pistons à moitié, à mi-hauteur simplement. Et puis après, il faut jouer dessus avec le souffle et on arrive à cet effet-là qui est très parlant et très parlé.
Le morceau suivant, c'est encore Ray Stewart. Mais il n'est pas tout seul là. Il est avec Cootie Williams, sous l'œil plus que paternel, je dirais l'œil attentif, surveillant, de Duke Ellington.
L'œil du maître, en quelque sorte.
Oh oui. Là, il leur donne la possibilité de se confronter, mais tout ça, c'est quand même, je dirais pas préparé vraiment, mais il y a quand même une trame, et là, c'est quand même le contest. Hein.
Oui, ça a beau être encadré par un très bel arrangement, il y a une vraie compétition, tu as tout à fait raison. Et ce dialogue-là, ce qui frappe, c'est son côté en équilibre, son côté abouti.
Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est deux styles différents. Et ça s'appelle...
Tootin' Through the Roof.
Demander si c'est vraiment si improvisé que ça, hein, parce que ça a l'air tellement propre, tellement bien en place, l'un réponse l'autre, etc. Eh bien, écoutez, je crois que là, on va vous passer un exemple qui va vous montrer que c'est vraiment improvisé.
Et là, on passe d'une logique de dialogue à une autre.
Thank you.
Alors ça, c'était le dialogue de trompette compétitif, mais sous contrôle, puisque l'œil du maître était là. Alors maintenant, il n'y a plus d'œil du maître. Les deux types sont en liberté totale devant un public conquis, mais vigilant. C'est toujours Rex Stewart, mais cette fois-ci, son partenaire...
Ah, c'est Charlie Shavers.
Personnage extraordinaire, trompettiste absolument fabuleux. On dit de lui que c'était le trompettiste le plus complet du jazz.
Il savait tout faire.
Non seulement il savait tout faire, mais en plus, exactement comme Rex Stewart, il n'abusait pas de sa virtuosité. Il en faisait des gags également, d'une autre façon. Ce sont deux langages assez différents, mais là, ils se rencontrent, ça se passe en public, dans une house rent party, et ils se tirent une bourre terrible.
Bugle Cold Rag.
Thank you. La séquence suivante nous mène dans la haute littérature, puisqu'elle nous renvoie à George Sand.
Oui, George Sand a eu beaucoup de petits amis, dont un vraiment très très célèbre, puisqu'il s'agit de Frédéric Chopin, le grand compositeur, le grand pianiste classique.
Mais le personnage central de toute cette affaire, ce n'est ni Chopin ni George Sand, c'est Marquis.
Un tout petit chien qui était le chien de George Sand et qui était très joueur et qui s'amusait beaucoup à essayer d'attraper sa queue. Alors il tournait comme un petit auton autour de lui-même et finalement, Chopin qui le regardait faire a trouvé qu'il faisait ça tout à fait dans un rythme de valse. Et il a commencé une petite composition tout à fait amusante au piano. Et bien sûr, ça n'a pas duré extrêmement longtemps, la petite composition, parce qu'il n'y avait pas non plus des milliers de choses à dire. Donc, ça a été une valse très courte, que lui-même a appelée la valse du petit chien.
Mais la valse du petit chien, ça n'a pas plu à l'éditeur de musique, qui, constatant que la partition était plutôt courte, l'a appelée la valse
miniature.
Et puis, dans cette langue étrangère et germanique, le mot de miniature s'est confondu avec le mot minute. Enfin, toujours est-il qu'elle a finalement été appelée la valse minute.
Alors, il y a des gens qui croient que cette valse ne dure qu'une minute. Ce serait extrêmement court. Alors, il y a même des musiciens qui ont essayé de la jouer en une minute à toute vitesse.
Ouais, le résultat n'est pas terrible.
Non.
Alors là, nous allons être plus raisonnables, mais nous allons vous parler quand même des gens qui se sont emparés de la valse minute, puisque le nom a perduré, qui est un orchestre de virtuoses absolument incroyable, où on retrouve le même trompettiste Charlie Shavers de tout à l'heure, aux côtés d'un clarinettiste qui s'appelle Buster Bailey, et tout ça sous l'égide du bassiste John Kirby. Alors, il y a aussi le pianiste, le batteur, le saxo alto, et c'est vraiment une équipe de virtuoses incroyable. Alors, la plupart des arrangements étaient faits de tête, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas écrits, et c'était sur des idées de Charlie Shavers. Ça, on ne sait pas si c'était systématique ou pas. De toute façon, l'orchestre de Kirby, c'est vraiment un mythe. Vous allez l'entendre, justement, dans Minute Valse. Mais avant de vous passer cette version-là, nous avons à cœur de rendre hommage à Chopin, et vous allez voir, après, comment le jazz arrange les classiques. Thank you.
ce morceau, où il y a plein de monde, hein, c'est pas un piano tout seul, là, hein, c'est plein de monde, il est merveilleusement soulevé par la partie de contrebasse qui est d'une légèreté, d'un rebondissement. Elle prend pas toute la place, mais en même temps, tout le monde est assis dessus.
C'est la caractéristique des grands bassistes. Et alors, ce qui est très bien, c'est que ça se complète d'un batteur qui cingle. C'était Oney Spencer, c'est un type qui était très, très incisif. Et ça fait une rythmique qui se complète très bien. Tu sais que le pianiste Billy Kay, il a fini sa carrière comme pianiste de Louis Armstrong, s'il vous plaît.
Quand
et
même.
Russell Prokop, le saxo alto que nous avons bien connu, a fini la sienne chez Duke Ellington.
C'est du beau monde, tout ça.
Oui, c'est du beau monde, comme tu dis. D'ailleurs, je crois que les auditeurs vont nous reprocher de ne pas faire entendre autre chose pour rester un peu dans l'atmosphère très particulière de cet orchestre de John Kirby. Et il faut dire une chose, cet orchestre, beaucoup de gens ont essayé de reprendre ce qu'il faisait. Et il y en a un seul qui est arrivé à ma connaissance, un Français, Claude Tissandier, très bon arrangeur, très bon saxo alto, un des meilleurs, et qui a réussi à monter un petit orchestre il y a pas mal de temps déjà, où il a repiqué et réexécuté les arrangements de Kirby. Et c'était formidable d'entendre ça en vrai.
Eh bien, encore donc avec cet orchestre, Undecided.
Composé par Charlie Shaver, c'est un des morceaux les plus célèbres dans les standards d'ailleurs, Undecided.
Et puis, juste après, vous entendrez Eccentric Rag.
Où le clarinettiste Buster Ballet est très en vedette.
Thank you.
Voici maintenant une sorte de jam session chez Duke Ellington. Alors naturellement, les musiciens de Duke Ellington, c'était tous des virtuoses, ce qu'on appelait entre nous des super techniciens.
Ils savaient extrêmement bien lire la musique. Et ils ne jouaient pas que d'oreilles, si on peut dire.
Et ils savaient aussi faire d'ailleurs. Mais
oui.
Nous, on les a vus découvrir un morceau une après-midi à une répétition et le jouer en concert le soir, après
oui.
l'avoir joué deux fois.
Sans problème.
Et ce n'était pas des morceaux forcément simples. Et là, c'est une jam session. Alors, tous ces virtuoses, en fait, là, ils sont à la fois au sommet de leur art et au sommet de ce qu'on pourrait appeler la non-visibilité de la virtuosité.
Et là, on retrouve ce qu'on avait dit tout à l'heure, des gens avec une technique ébouriffante et qui s'en servent l'air de rien.
C'est tout à fait ça. Alors, vous allez assister à un départ sur un magnifique trio de trombones avec un défilé de solistes, puisque c'est une jam session. Tout à l'heure, on a parlé de tirage de bourre. Et bien là, ça recommence, mais ils sont plus deux, ils sont trois.
Ah oui, il y a de la concurrence quand même.
Ouais, on entend un trompettiste au début, mais c'est pas là que ça se passe. Vous allez entendre trois trompettistes. Ils vont chacun jouer un chorus de blues, parce que tout ça, c'est un blues aussi, à son tour. Et après, se succédant toutes les quatre mesures, ils vont faire monter la température de manière incroyable. Il s'agit de la génération suivante de trompettistes. Là, nous avons Clark Terry, Willie Cook et Cat Anderson. Et naturellement, c'est Cat Anderson qui va conclure tous les épisodes. Et ce passage va amener le final de l'orchestre, assez tonitruant. Duke's Jam.
Thank you.
Tout à l'heure, on vous a dit que ça se terminait avec Cat Anderson. Eh bien, c'était surtout avec les suraigus de Cat Anderson. Et là, on a une petite anecdote parce que on l'a vécu nous-mêmes. Ça se passait à Paris et comme c'était un de nos amis, il venait à la maison régulièrement et un jour, il dit à Laurent « Je veux m'acheter un bugle et je vais aller chez Selmer. »
Bon, ben moi, je le conduis chez Selmer. Hein. Et on arrive, on nous met dans un petit auditorium capitonné pour essayer les instruments et on nous donne une demi-douzaine de bugles à essayer. Et puis, un des frères Selmer arrive avec une petite trompette à quatre pistons, tu sais, la trompette que Maurice André avait mis au point, qui jouait très très aiguë. Et qui dit, vous qui êtes spécialiste du suraigu, essayez ça, peut-être que ça vous plaira et que vous l'adopterez. Tu sais pas, la trompette comme ça chez Duke Ellington, évidemment, ça aurait quand même fait une très bonne pub à la maison Selmer.
Certes, oui.
Mais il faut dire quand même que les frères Selmer, c'était des gens très corrects. Hein.
Sérieux avec les musiciens, respectueux des musiciens.
Et bref, après tout ça, il essaye la petite trompette et on se retrouve dans le bureau des frères Selmer et il dit voilà le bugle qu'il me faut, etc. Et il discute le prix. Et la trompette piccolo, lui disent les Selmer. Et Kat leur dit ah oui, ben écoutez, alors il déplie le papier qu'il y avait avec la trompette piccolo où il y avait la tessiture de la petite trompette. Alors au-dessus de la portée, ça faisait des échelles vertigineuses, on montait très 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 haut, on était au-delà du possible. Et il dit voyez, cette trompette-là, elle monte. Jusque-là, et il montre la note la plus haute du document. Mais vous savez, moi, avec ma bonne vieille si bémol, et là, il pose le doigt sur le haut du papier, avec ma trompette si bémol. Ben, moi, je vais jusque-là, et c'est tellement plus souple. ils ont fait glop.
C'est vous dire que c'était vraiment le spécialiste du suraigu. Ouais. Souple.
Et un jour, on vous fera une émission que sur Cat Anderson. Bah, c'était un homme qu'on aimait énormément et qui était un trompettiste magnifique. Quand on pense virtuose en jazz, naturellement, il y a un nom qui vient tout de suite à l'esprit. C'est celui de
Lionel Hampton.
Et oui, Lionel Hampton, pour qui l'a vu jouer et de la batterie, et du vibraphone, et du piano. C'était un spectacle incroyable, une virtuosité alors incroyable, encore pire.
Je dirais même qu'on le voyait danser aussi.
Un type inouï, jusqu'à 80 ans passés, c'est une sorte de pile électrique, on n'en croyait pas ses yeux. Et là, nous allons vous donner un échantillon du talent de Lionel Hampton, qui a une carrière absolument extraordinaire, parce qu'il a commencé dans un orchestre d'enfants, et ses qualités et la vie l'ont porté, telle une plume au vent, toujours aux bons endroits. Et un des majors du disque a fini par lui confier des séances d'enregistrement en lui donnant carte blanche. Il faisait ce qu'il voulait, avec qui il voulait. C'est de cette période que nous allons vous extraire trois morceaux.
Drum Stomp pour la batterie, Stompology pour le vibraphone, et China Stomp pour le piano.
Voilà, vous pouvez attacher vos ceintures. Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.